qui va nous ramener à ce qui est le problème de ce chapitre 2, ce qui est l'objet même de ce chapitre 2 de notre appendice, à savoir les désirs, la distinction des désirs, distinction en passion et action droite. Donc, j'intitule cette section suivante, je crois que j'avais déjà indiqué ce titre, « Des idées au désir ». Des idées au désir. Car jusqu'à présent, si vous voulez, nous avons réfléchi sur des questions relevant du fonctionnement intellectuel de l'esprit, mais pas vraiment encore de son fonctionnement affectif. Eh bien, il va falloir effectuer le passage de l'un à l'autre et revenir donc à la question qui fait l'objet de ce deuxième chapitre. On l'a vu, là je ne fais que répéter ce que dit le texte lui-même du chapitre, cette distinction répond à deux façons possibles pour nos désirs de se rapporter, j'utilise l'expression de Spinoza, se rapporter à l'esprit considéré au point de vue intellectuel, c'est-à-dire considéré en tant qu'il forme des idées dont certaines seront adéquates, d'autres inadéquates, bien qu'il soit préférable, plutôt que de tracer une frontière entre des idées qui seraient pour les unes adéquates, pour les autres inadéquates, il est préférable de dire que adéquation et inadéquation se mêlent dans nos idées, non pas de telle façon qu'il soit impossible de rien distinguer. Non, on peut distinguer, mais adéquation et inadéquation se mêlent dans nos idées au point que une seule et même idée peut être plus ou moins adéquate, plus ou moins inadéquate. Alors, nous allons maintenant voir comment s'effectue ce passage. Et d'ailleurs, du côté des désirs et du côté des affects en général, puisque le désir est le premier, d'une certaine façon, des affects, à la fin de la troisième partie, la définition générale des affects, qui est une espèce d'appendice à la troisième partie, la définition générale des affects commence par une définition du désir, qui donc est lui aussi un affect. Eh bien, de la même façon que adéquation et inadéquation traversent toutes nos idées, eh bien, nos désirs ne seront jamais exclusivement des passions, ni exclusivement des actions droites, mais il y aura dans la composition organique de chacun de nos désirs, la présence des deux aspects. Évidemment, mais ça vous pouvez vous en douter sans que j'ai besoin de vous le dire, il y a bien sûr un pôle auquel, une fois qu'on y est parvenu, il n'existe plus que de l'adéquation, il n'existe plus que de l'action, et ce pôle, c'est Dieu, bien entendu. En Dieu, il n'y a que des idées adéquates, et en Dieu, il n'y a que de l'activité. Alors, non seulement, comme je l'ai dit, idées adéquates et inadéquates, désir actif et désir passif, ou passion, ne s'opposent pas dans l'esprit humain comme des espèces séparées et séparées par une cloison étanche, mais il faut dire que tous les affects qui dérivent du désir, tous les affects qui vont dériver du désir, et toute la troisième partie de l'éthique, et d'ailleurs aussi encore la quatrième, est justement une entreprise de dérivation de tous les affects humains à partir de cet affect primitif premier qui est le désir, expression directe du conatus. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les affects qui dérivent du désir, désir qui est l'essence même de l'homme, tous les affects qui dérivent du désir sont eux-mêmes des idées. Tous sont eux-mêmes des idées. Voici ce qu'on lit dans la troisième définition de la troisième partie. Troisième partie, donc éthique, troisième partie, définition 3. Par affect, j'entends les affections du corps, Et n'oubliez pas que affection signifie modification, signifie transformation, manière d'être affecté. On a presque envie de dire que être affecté, c'est être concerné en tant qu'on est touché. Aujourd'hui, dans le vocabulaire contemporain, on dirait peut-être on est impacté. Bon, ce qui est le terme un peu à la mode, disons affecté, modifié. Par affect, j'entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir de ce corps et en même temps les idées de ses affections. Par affect, j'entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir de ce corps et en même temps les idées de ses affections. Donc, là, on voit bien que l'écart entre affect et idée se réduit à presque rien. Cet en même temps ne dit pas tout à fait l'équivalence, mais enfin, par affect, j'entends les affections du corps et en même temps les idées de ces affections, cela veut dire que les idées elles-mêmes entrent dans, je ne dirais pas entrent comme espèce dans le genre des affects, mais sont sur le même plan exactement que les affects. Et la définition au chapitre définition générale des affects à la fin de la troisième partie auquel je viens de me référer dans ce chapitre, enfin ce n'est pas un chapitre tout à fait, mais dans cette définition générale des affects à la fin de la troisième partie, Spinoza écrit: l'affect qu'on dit une passion de l'âme, qu'on appelle une passion de l'âme, est une idée confuse. L'affect qu'on appelle, qu'on dit une passion de l'âme, quand un affect est une passion de l'âme, eh bien c'est une idée confuse. Donc vous avez une quasi-position d'équivalence entre idée et affect. Alors, évidemment, ça nous paraît bizarre à nous, je l'avais dit, de faire des désirs à peu près la même chose que les idées, de faire des affects en général d'ailleurs, et des désirs à peu près la même chose que des idées, parce que nous avons plutôt tendance à considérer que les désirs et les affects en général sont dans un domaine, appartiennent à un domaine de notre vie mentale, qu'on va appeler justement le domaine affectif, le domaine de l'affectivité qui va comprendre par exemple les émotions, les sentiments, les passions. Et bien on a l'habitude de ranger tout ça dans un compartiment bien distinct du compartiment intellectuel dans lequel se trouvent les idées. La part intellectuelle de notre esprit, se trouvant en situation non pas tout à fait de séparation, bien sûr, parce que nous savons que nos désirs sont conditionnés par nos idées. L'idée que je me fais de quelque chose est évidemment pour quelque chose dans la tendance que j'aurai, la propension que j'aurai à tourner mon désir vers cette chose. Mais enfin, pour nous, il s'agit de choses différentes, au point que nous regardons plutôt le monde des affects et le monde des désirs comme un univers qu'il appartiendrait à notre esprit de gouverner, de commander, d'ordonner, d'organiser en fonction de la représentation que nous en donnent les idées. Eh bien, c'est justement ça que Spinoza va bouleverser, parce qu'il ne présente pas du tout la vie éthique de cette façon. L'esprit est un, il est un, il n'y a pas un compartiment affectif et un compartiment intellectuel. Ce dernier, le compartiment intellectuel, l'aspect intellectuel, ayant par exemple pour vocation de nous éclairer dans la conduite de nos désirs. À quoi il faut ajouter, je l'avais dit, je crois, un troisième partenaire dans ce jeu, partenaire qui est la volonté, volonté qui nous est demandée de mobiliser, qui nous est demandée de mettre en œuvre, avec la puissance qu'elle possède, et elle n'est peut-être pas cette puissance égale en tous, volonté qui nous est demandée de mettre en œuvre pour, je dirais, gérer les désirs en fonction de ce que nous enseignent les idées. Voilà, j'ai les idées qui me renseignent sur les désirs, qui me renseignent plutôt, qui me donnent un certain nombre d'informations sur les objets des désirs. Ces désirs, ils sont là, et ils forment une espèce de peuple assez agité, assez difficile à maîtriser souvent. Eh bien, la volonté doit se mobiliser, elle doit mettre sa force au service d'une saine organisation et d'une saine gestion de ses désirs à la lumière des enseignements que nous livrent les idées, dont l'aspect intellectuel. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que Spinoza nous invite à nous représenter les choses. Je vais lire ici un extrait de la lettre numéro 32 à Henri Oldenburg. Lettre 32. Je crois que je suis un peu en retard dans la mise à jour du blog. Je vais essayer d'y porter remède le plus vite possible. Je crois qu'il va faire mauvais les jours pressés, les jours suivants. Ça devrait m'aider à mettre à jour donc les citations et le plan du cours sur le blog. Voici ce qu'écrit Spinoza dans la lettre 32 à Oldenburg. Le corps humain est selon moi une partie de la nature. Et en ce qui concerne l'esprit humain, j'estime que lui aussi est une partie de la nature. Oui, car je considère qu'il y a également dans la nature une puissance infinie de pensée qui, en tant qu'infini, contient en soi objectivement la nature entière. Je reviens sur cette phrase. Je considère qu'il y a également dans la nature une puissance infinie de pensée, ça c'est évidemment l'esprit de Dieu, c'est l'entendement divin. Il y a également dans la nature une puissance infinie de pensée qui, en tant qu'infini, contient en soi objectivement la nature entière. Objectivement, cela veut dire que tout l'univers des objets constituant la nature entière est pensé dans cette pensée infinie, dans cette puissance infinie de pensée qui est l'entendement divin. Donc, une puissance infinie de pensée qui, en tant qu'infini, contient en soi objectivement la nature entière, et dont les pensées procèdent de la même manière que la nature, qui est bien sûr son idéa, qui est bien sûr l'objet de cette pensée. Je rappelle que l'idéa d'une pensée, d'une idée, c'est son objet, ce dont elle est l'idée. Eh bien, là, l'entendement divin, c'est l'idée de la nature. C'est l'idée de la nature, c'est la nature en tant qu'elle est pensante et pensée, de la même façon que l'étendue, c'est le corps de la nature. Ensuite, continue Spinoza, je considère que l'esprit humain est cette puissance elle-même, la puissance de l'esprit de l'entendement de Dieu. Je considère que l'esprit humain est cette puissance elle-même, non en tant qu'elle est infinie, l'esprit humain est infini, cette puissance elle-même non en tant qu'elle est infinie et qu'elle perçoit la nature entière, mais en tant qu'elle est finie, c'est-à-dire qu'elle perçoit seulement le corps humain. Et sous ce rapport, je considère que l'esprit humain est partie, est une partie, d'un certain intellect infini. Et sous ce rapport, je considère que l'esprit humain est une partie d'un certain intellect infini, qui est l'intellect divin, l'entendement de Dieu. Et donc, nous avons là le cadre général dans lequel va se trouver posée la question des affects, de la nature des affects, du jeu des affects et du jeu qui se joue entre les idées et les affects. Or, ce jeu est une partie qui ne met pas en présence des entités qui seraient substantiellement distinctes, qui auraient une existence, une réalité plutôt indépendante, mais elle ne met en jeu cette partie qui se joue entre nos idées et nos affects, elle ne met en jeu que les rapports de l'attribut étendu et de l'attribut pensé dans ce qu'il faut bien appeler le fonctionnement général, universel même, de la nature considérée dans sa totalité. Alors, on va voir que le passage de la distinction entre idées adéquates et idées inadéquates, que nous avons, cette distinction que nous avons, enfin, que j'ai essayé de clarifier dans tout ce qui a précédé. Le passage de cette distinction entre idée adéquate et inadéquate à la distinction entre les désirs qui sont des actions droites et ceux qui sont des passions, eh bien, ce passage, il va s'opérer par une distinction, une troisième distinction, si vous voulez, qui fait, on peut dire, l'intermédiaire entre les deux précédentes, une troisième distinction entre deux façons pour une chose d'être cause d'une autre. Deux façons pour une chose d'être cause d'une autre. Donc, nous avons d'abord, si vous voulez, nous avons, pour résumer, pour schématiser les choses, vous avez d'abord trois distinctions qui sont la première entre idées. À l'autre terme du cheminement, vous avez une distinction entre désir, idée adéquate, idée inadéquate, désir qui sont des actions droites, désir qui sont des passions. Eh bien, entre ces deux distinctions, et pour assurer le passage de l'une à l'autre, il va y avoir une distinction entre deux façons de penser la causalité, le rapport de la cause à l'effet, c'est-à-dire la manière dont une chose peut être cause d'une autre. Donc, c'est ce passage qu'il faut maintenant étudier, après quoi nous pourrons, pour finir l'explication de ce chapitre, mais nous n'y sommes pas encore, après quoi nous pourrons, eh bien, nous attacher à montrer ce qu'il en est des désirs considérés indépendamment du chemin qui nous a conduit jusque-là. Alors, je vais intituler la partie suivante, mais comme toujours, évidemment, on pourrait l'intituler autrement. Disons qu'il va s'agir de mettre en relation deux notions qui sont celles de causalité et de liberté. Et cette relation entre la causalité, la façon spinoziste de penser la causalité et la façon spinoziste de penser la liberté, elle va passer justement par cette distinction entre deux types de causalité. Alors, cette distinction, et ça ne vous surprendra pas, cette distinction, Spinoza l'a fait entre deux types de causes, cause adéquate et cause inadéquate. Voilà, il y a deux manières d'être une cause, de produire son effet, eh bien, deux manières qui correspondent, là encore, à la distinction entre adéquation et inadéquation. Alors, il faut d'abord rappeler ici ce qui est un principe énoncé dans la première partie de l'éthique, c'est la proposition 28. Principe énoncé dans la première partie de l'éthique, à la proposition 28, qui est l'universalité de la nécessité causale. Voici cet énoncé dont vous allez vous apercevoir que la formulation stylistique a déjà une signification quant au contenu de ce qui est dit. Je commenterai si ça n'est pas immédiatement perceptible à l'oreille, mais je crois que ça l'est assez facilement. Voici ce que dit la proposition 28 de la première partie de l'éthique. Toute réalité singulière, autrement dit, n'importe quelle chose finie qui a une existence déterminée, n'importe quel mode, si vous voulez. Toute réalité singulière, autrement dit, n'importe quelle chose finie qui a une existence déterminée. Une existence déterminée veut dire en particulier une existence finie. Finie dans l'espace et finie dans le temps. Les choses particulières, les choses finies, les réalités singulières, les choses finies ont une existence qui commence dans la durée et qui s'achève à un certain moment dans la durée, de la même façon qu'elles occupent une certaine place dans l'espace. Toute réalité singulière, autrement dit n'importe quelle chose finie qui a une existence déterminée, ne peut exister ni être déterminée à opérer, entendez par opérer, mais ce terme je l'éclaircirai plus loin, entendez par opérer, produire elle-même des effets, ne peut exister ni être déterminée à opérer si elle n'est déterminée à exister et à opérer par une autre cause, qui elle aussi est finie et a une existence déterminée, et cette cause à son tour ne peut pas non plus exister ni être déterminée à opérer si elle n'est déterminée à exister et à opérer par une autre cause qui elle aussi est finie et a une existence déterminée, et ainsi, je suis sûr que vous pouvez prononcer les deux derniers mots de la phrase,
ainsi de suite.
Pardon ? Oui, et ainsi de suite. Oui, et même à l'infini. Et même à l'infini. Et oui, à l'infini. Et lorsque je disais que cet énoncé de la proposition 28 restitue dans sa rythmique, dans sa, même dans ce qu'on pourrait presque considérer comme un effet rhétorique, et les effets rhétoriques ne sont pas si fréquents chez Spinoza, ni d'ailleurs en général dans la littérature cartésienne. Quand vous lisez Malebranche, Leibniz, Spinoza, et Descartes bien sûr, pour commencer, vous n'y rencontrez pas beaucoup d'effets de manche. Ici, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas aller jusqu'à parler d'effets de manche, mais il y a peut-être un certain souci rhétorique chez Spinoza de marquer dans la répétition, trois fois au moins, trois fois la répétition de l'idée de chose finie, déterminée, qui a une existence déterminée, qui doit être elle-même causée par une cause ayant les mêmes caractéristiques. Et donc, ce principe, évidemment, vaut exactement de la même manière et avec la même rigueur dans tous les attributs de la substance, et en particulier, bien sûr, dans l'attribut corps comme dans l'attribut pensée. Ce qui fait dire à Spinoza, et je crois que je ne fais ici que répéter l'une des formules les plus célèbres de l'éthique, l'ordre et la connexion des choses est le même que l'ordre et la connexion des idées. Enfin, la formulation est l'inverse chez Spinoza, l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses, surtout ne pas entendre par choses les corps, mais de toutes les choses, qu'elles soient corps ou autre chose relevant des attributs dont nous n'avons pas connaissance, et idées elles-mêmes, évidemment. L'ordre et la connexion des choses, c'est le même que l'ordre et la connexion des idées. Cet ordre étant un ordre causal, un ordre de détermination causale, eh bien, Spinoza reprend une très vieille idée. L'ordre causal, dit Spinoza, nous montre comment et pourquoi quelque chose est ou a été fait. L'ordre causal nous montre, l'idée vraie d'une chose, parce qu'elle renvoie à l'ordre causal dans lequel cette chose a été produite, l'idée vraie d'une chose, je le cite, ouvrez les guillemets, montre comment et pourquoi quelque chose est ou a été fait. La connaissance d'une chose, c'est la connaissance de son mode de production. Connaître une chose, c'est en connaître le mode de production causal. Je disais, idée très ancienne, dont Spinoza rappelle, au moment même où il formule cette proposition, qu'elle se trouve chez Aristote. Je vous lis ce passage des Secondes Analytiques. Secondes Analytiques, Aristote, livre 1, chapitre 2. Nous estimons, ça c'est Aristote qui parle, hein, nous estimons posséder la science d'une chose d'une manière absolue lorsque nous pensons que nous connaissons la cause par laquelle la chose est. Lorsque nous savons que c'est elle qui est la cause de la chose, et qu'en outre, il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle n'est. Je répète cette affirmation. Nous estimons posséder la science d'une chose, d'une manière absolue, lorsque nous pensons que nous connaissons la chose par laquelle la chose est, et que nous savons que c'est elle qui est la cause de telle chose, et qu'en outre, il n'est pas possible que la chose soit autre qu'elle n'est. Ce que nous donne la connaissance de la cause, c'est la connaissance de la nécessité de la chose dont elle est la cause. Je répète, ce que nous offre la connaissance de la cause de X, c'est la nécessité de X. La nécessité au sens où, dès lors que nous savons ce qui a produit X, comment et pourquoi X a été produit par cette cause, eh bien nous savons que X ne pouvait être que ce qu'il est, ce que veut dire nécessité. Donc, à l'idée de causalité est associée celle de nécessité. La cause, c'est ce qui produit nécessairement. La cause est ce qui, étant donné, donne nécessairement l'effet. Car si la cause étant donnée, l'effet ne se produit pas, c'est que cette cause n'est pas cause. Elle ne cause rien, et donc elle ne peut même pas être pensée comme cause. Et donc, connaître la cause, c'est connaître pourquoi, c'est savoir pourquoi et comment cette chose dont cette cause est la cause est nécessaire, ne peut pas ne pas être, et c'est donc là, dit Aristote, le sommet de la connaissance. Seulement, Spinoza va introduire ici une distinction tout à fait cruciale. Il dit oui, tout est causé et causant. Voilà, ça c'est l'énoncé de la proposition 28 de la première partie. Tout est à la fois causé et causant. Il n'y a pas d'effet qui ne renvoie à une cause, et cette cause doit être considérée elle-même comme un effet, renvoyant en amont à une autre cause. Et quelque effet de quelque cause que ce soit que vous considériez, cet effet va lui-même avoir une efficience causale. Il va produire des effets qui seront à leur tour causants, en position de cause d'autres effets ultérieurs. Donc il n'y a d'interruption de la chaîne de causalité, ni en amont, ni en aval. Ce qui d'ailleurs perturbe beaucoup l'esprit, qui évidemment a facilement tendance à se dire « mais il faut bien quand même s'arrêter quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas, on peut au moins souhaiter trouver un point dans lequel vienne s'ancrer l'origine ultime, unique, une et unique, de tous les enchaînements de causalité, une origine première, une et unique, qui serait la cause avec un grand C, idée que Spinoza, évidemment, ne retient pas du tout, ou du moins, bah, là, je ne sais pas si je m'aventure dans cette parenthèse-là ou non, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'ordre des choses déterminées, des choses qui sont déterminées, c'est-à-dire qui ont eu un terme dans l'espace et un terme dans le temps, dans l'ordre des choses déterminées, des choses existantes, il n'y a pas de terme à l'enchaînement causal, ni vers l'amont, ni vers l'aval. Il reste qu'il y a, d'une certaine manière, et à condition de se donner de l'idée de cause, je dirais, une idée un peu différente. Il y a bien une cause ultime, mais qui n'est pas une cause première dans le temps, qui n'est pas une cause qui se situerait quelque part dans la chaîne des causes. Cette cause, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu n'est pas une cause première au sens chronologique, par exemple. Ce n'est pas la cause à laquelle nous avons affaire, par exemple, dans l'acte de création du Dieu des religions, des théologies révélées, qui, lui, est un geste, un acte instantané. Ce n'est pas cette cause-là. La cause divine, pour Spinoza, c'est une cause productrice, mais qui n'est pas en un certain point des rapports de causalité qui s'enchaînent dans l'infinité de la complexité du monde des choses existantes. C'est un principe ultime, unique, certainement, mais pas ultime au sens temporel, ni encore évidemment moins au sens spatial où cette cause serait quelque part. Cette cause, c'est la nature, bien sûr. Et en tant qu'elle est regardée comme cause, vous savez, je crois que j'avais fait cette distinction, mais qui est de Spinoza, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que Spinoza appelle nature naturante. En ce sens-là, en effet, la nature naturante est cause unique, elle est cause une et unique, mais elle est cause une et unique d'une toute autre manière. Elle est cause par sa puissance productrice éternellement agissante, mais d'une toute autre manière, des causes qui opèrent dans la nature naturée, c'est-à-dire dans l'ensemble infini des modes qui sont liés les uns aux autres par ces chaînes de causalité ininterrompues, autant vers l'amont que vers l'aval. Alors, Spinoza va introduire ici une distinction cruciale, celle de la cause adéquate et de la cause inadéquate. Cette distinction est introduite dans la première définition de la troisième partie de l'éthique. Ce n'est pas pour rien que cette distinction de la causalité adéquate et de la causalité inadéquate se trouve introduite en première position, c'est la première définition de la troisième partie de l'éthique, partie qui va être consacrée à l'examen du fonctionnement des affects. C'est parce que cette distinction est évidemment tout à fait centrale, crucial pour la compréhension des mécanismes de l'affectivité humaine. Alors voici cette définition. Définition 1 de la troisième partie de l'éthique. J'appelle cause adéquate celle dont l'effet peut se percevoir clairement et distinctement à partir d'elle-même. Elle-même, la cause. J'appelle cause adéquate celle dont l'effet peut se percevoir clairement et distinctement à partir d'elle-même. Et j'appelle inadéquate ou partielle celle dont l'effet ne peut se comprendre par elle seule. Et j'appelle inadéquate ou partielle la cause, je précise l'énoncé, j'appelle inadéquate ou partielle la cause dont l'effet ne peut se comprendre par cette cause seule. Tandis que la cause adéquate est celle dont l'effet peut se percevoir clairement et distinctement à partir de cette cause elle-même. Voilà cette distinction. Je relis l'énoncé pour ceux qui auraient souhaité le noter, en espérant ne pas aller trop vite. J'appelle cause adéquate celle dont l'effet peut se percevoir clairement et distinctement à partir d'elle-même. Et j'appelle inadéquate ou partielle celle dont l'effet ne peut se comprendre par elle seule. À partir d'elle-même ou par elle seule, ces deux expressions qui ici ont la même signification, à partir d'elle-même, par elle seule, je disais, ont la même signification qui est celle-ci, par sa seule nature ou essence. Là, la cause adéquate est celle dont l'effet peut clairement et distinctement se comprendre par la seule nature ou essence de cette cause. Celle qui est inadéquate est celle qui ne peut pas se comprendre par référence à ou à partir de la connaissance qu'on a de la nature ou de l'essence de la chose qui est la cause productrice. Il faut faire attention à la présence dans la définition de la cause adéquate des adverbes clairement et distinctement. De même que du verbe percevoir. J'appelle cause adéquate celle dont l'effet peut se percevoir clairement et distinctement à partir d'elle-même, à partir de la cause elle-même. Percevoir clairement et distinctement. Ça veut dire que lorsque Spinoza distingue la cause adéquate de la cause inadéquate, il ne les distingue pas par, si vous voulez, leur teneur, leur matérialité, leur contenu. On peut distinguer différentes sortes de causes. Par exemple, vous pouvez distinguer des causes inertes, des causes vivantes, des causes pensantes. Vous pouvez dire que, par exemple, la cause de tel ou tel comportement d'un être vivant va s'expliquer par, justement, des phénomènes qui sont de nature organique. C'est un être vivant, donc il fait ça. Vous pouvez dire, par exemple, c'est un être pensant, il a des intentions, il a des projets, et donc il agit de telle façon. Ça reviendrait à distinguer différentes sortes de causes par leur contenu même. De la même façon que vous pouvez, par exemple, distinguer des causes proches de l'effet de causes beaucoup plus éloignées. On parle, dans le vocabulaire de l'épistémologie, on parle de causes proximales et de causes distales. Causes distales, ça veut dire causes qui sont à distance, distales, proximales, voilà, ça signifie à proximité ou à distance. Par exemple, la cause proximale de la destruction de la première maison des trois petits cochons, c'est le souffle du loup. Voilà, le loup souffle, la maison est en paille, elle s'envole. Mais les causes remontent plus haut. La vérité, c'est que la cause ultime de la destruction de la maison, c'est la flemme du petit cochon de construire un truc plus difficile à produire. De la même façon que, vous pouvez dans une... L'attentat à Sarajevo, cause proximale, mais il est évident que si l'on veut comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, il faut remonter beaucoup plus loin. Alors, c'est ce que dira Montesquieu. Montesquieu disait, si un empire a été détruit par une seule bataille, c'est qu'il y avait des raisons pour qu'une seule bataille suffise à le détruire. Alors, ça, ce sont des distinctions qui relèvent de différents types de causes, si vous voulez, mais des causes qui se distinguent par... par leur nature au regard de l'effet. Ici, c'est différent Puisque si Spinoza nous parle de concevoir, de percevoir, pardon, percevoir clairement et distinctement, ça veut dire que c'est la cause adéquate et la cause inadéquate se distinguent, se différencient à partir d'un point de vue qui est le point de vue mental, de la possibilité de comprendre comment se produit le rapport causal. Je dirais, je répète, hein, cette distinction, pour la comprendre, il faut se situer au point de vue mental, pas au point de vue de la matérialité, de la teneur des causes elles-mêmes, mais du point de vue mental, de la possibilité de comprendre rationnellement la façon dont les effets procèdent d'une cause, viennent d'une cause, sont produits par une cause, suivent, et de comprendre la façon dont les effets suivent de la nature ou de l'essence de cette cause. Pour dire les choses autrement, parce que j'ai conscience que c'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de raconter, je dirais que, mais je suis prêt à y rester un peu plus longtemps, s'effectue, est causé adéquatement, s'accomplit ou s'effectue ou est causé adéquatement, je dirais, ce qui se pense clairement et distinctement comme effet d'une essence déterminée. Ce qui se pense clairement et distinctement comme effet d'une essence déterminée. Si vous voulez, il y a un seul critère pour distinguer la causalité adéquate de la causalité inadéquate. Ce critère, c'est la possibilité de percevoir de façon intelligible, clairement et distinctement, le lien qui unit la cause dans sa nature, dans son essence, à ce qu'elle produit. C'est parfois possible, ça n'est pas toujours possible. Parce que il arrive que pour comprendre comment quelque chose a produit autre chose, eh bien vous deviez faire intervenir des éléments, des facteurs qui n'appartiennent pas à la cause que vous avez identifiée comme la cause. Je vais prendre ici quelques exemples qui aideront, je pense, à apercevoir la difficulté. Alors, je crois que le plus simple pour faire comprendre la chose, c'est ceci. Je vais lire un propos d'Alain. Je vais lire en entier. D'abord parce qu'on répugne à couper un propos d'Alain, qui est un texte qui a, disons, une certaine vertu littéraire qui tient aussi à son unité. Ce propos, c'est le propos du 20 août 1907. Et il a pour titre, ce propos, « La jetée de Dieppe ». La jetée de Dieppe. Ça parlera peut-être à ceux qui connaissent Dieppe, qui se sont rendus en ce lieu, qui se sont peut-être promenés sur la jetée, ou d'ailleurs, je dirais, sur à peu près n'importe quelle jetée d'une ville portuaire. Il faut plutôt penser à une jetée de ville portuaire de petite dimension. Voici ce propos. Sur la jetée de Dieppe, je vis un pêcheur de mouettes. Oui, il y a des pêcheurs de mouettes. Ou plutôt, il y eut des pêcheurs de mouettes. Car je vous avoue que je me suis promené sur quelques jetées. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas du côté des rivages marins, des jetées et des ports que se dirige mon intérêt principal. Mais enfin, bon, ça m'est arrivé. Ce n'est pas désagréable, j'apprécie. Je n'ai jamais vu de pêcheur de mouettes. Mais vous allez découvrir. Sur la jetée de Dieppe, je vis un pêcheur de mouettes. Il laissait flotter sur l'eau verte une longue corde avec un hameçon garni d'un appât. Ses yeux clairs suivaient le vol des mouettes. Elles nageaient dans l'air avec un lent mouvement des ailes. On distinguait leur œil rond et leur grosse tête sans cou. De temps en temps, l'une d'elles piquait dans l'eau comme une pierre et remontait en tournoyant. L'heure était belle. Les pavillons claquaient au vent. L'écume bondissait. Le bateau d'Angleterre s'éloignait, laissant derrière lui une espèce de chemin blanc sur la mer. Il y avait là les gens qui y sont toujours et qu'on y retrouve toujours, des Parisiens qui tenaient leur chapeau et des Parisiennes qui tenaient leur jupe. Un grand Anglais au visage de brique. Un petit Anglais vêtu d'un étrange drap vert qu'on ne voit point chez nous. Votre mémoire évoque sans peine ce tableau mouvant, ses fraîches couleurs, ses impressions vivifiantes, car vous vous êtes sans doute plus d'une fois abrité au pied de la tour de fer. Vous avez respiré cette odeur de vase et de goudron qui donne au plus tranquille l'envie soudaine de parcourir le monde. Justement, une des mouettes, après avoir mollement flotté dans l'air, venait d'entrer comme une flèche dans la vague et remontait d'un vol plus lourd. Je revins au pêcheur d'oiseaux et je le vis qui enroulait sa ficelle vivement, mais d'un mouvement régulier pendant que les spectateurs autour de lui s'agitaient. Mes yeux suivaient le fil jusqu'à l'eau et jusqu'à l'oiseau. La mouette était prise. Elle volait encore. Elle tournoyait encore parmi les autres. Et même d'un vol plus vif. Mais je voyais son bec ouvert et ce fil que le pêcheur tirait à lui d'un mouvement régulier. L'oiseau donnait maintenant toutes ses forces. Ses furieux coups d'ailes l'auraient emporté jusqu'au fond du ciel. Mais cette petite chose à peine visible était plus lourde que la lourde proie et plus forte que le vent. Quelques pieds de chanvre avaient mûri au soleil. Un artisan avait séparé, peigné, tressé les fibres de la plante, pendant que l'oiseau essayait ses ailes et jouait avec la tempête. Après 1000 détours, la corde et l'oiseau s'étaient rencontrés dans le même creux de la vague. Il fallait que cela fût. Le destin était facile à lire maintenant, mais non encore pour l'oiseau. Après avoir volé, il nageait, le corps raidi. Mais les forces naturelles n'agissaient plus. Le monde n'était plus qu'un songe absurde. Encore un vol tournoyant, encore une explosion de révolte sauvage, enragée et inutile. L'instant d'après, elle était prise par les ailes et ses yeux seuls vivaient. L'homme n'avait pensé en tout cela qu'à enrouler proprement la ficelle. Bon, ben vous savez désormais qu'il existe des pêcheurs de mouettes. Vous connaissez même la technique. Bon, ce que je ne sais pas, c'est ce que les pêcheurs de mouettes faisaient de la mouette. La mangeaient-ils la plumaient-ils en avaient-ils un usage quelconque? Je ne sais pas. Mais là, vous avez alors une illustration, je pense, alors aussi fidèle que possible. Et d'ailleurs, j'ai quand même bien du mal à imaginer qu'Alain ait pu écrire ce texte sans penser à Spinoza. Je ne crois pas que ce soit possible. Mais vous avez une illustration idéale de ce que signifie l'opposition de la causalité adéquate et de la causalité inadéquate. Le vol de la mouette dans l'air, avant que ne survienne cet événement qui lui sera fatal, le vol de la mouette dans l'air exprime la nature de la mouette. Il exprime l'essence de la mouette. Il est vraiment la manifestation de la nature de la mouette, de son essence de mouette. C'est un vol de mouette, qui se distingue d'ailleurs du vol de n'importe quel autre oiseau, pour peu qu'on ait un tout petit peu l'habitude d'admirer, de contempler, d'observer les oiseaux. On sait très bien distinguer le vol des différentes espèces, de la même façon, par exemple, que un pêcheur, là, je parle un peu plus d'expérience, un pêcheur peut être capable de savoir à quel poisson il a affaire, même si le poisson est encore sous 1,50 m d'eau, à la manière dont il se défend. Parce que une truite ne se défend pas comme un chevesne, qui ne se défend pas comme une carpe, qui ne se défend pas comme un autre poisson. Et je dirais même d'ailleurs que d'expérience, les pêcheurs de truites savent qu'une truite arc-en-ciel ne se défend pas comme une truite fario, par exemple. Pas du tout la même défense. Bon. Qu'est-ce qui arrive à cette pauvre mouette? Il arrive qu'après avoir suivi sa trajectoire de mouette comme réalité déterminée dans le monde des existants, eh bien, elle a rencontré au creux de la vague la trajectoire d'un dispositif qui a été tressé, qui a d'abord été cultivé. C'était du chanvre, nous dit Alain. Ce chanvre, il a été tressé, il a été monté une ligne, on lui a attaché un hameçon, on a mis au bout de l'hameçon. Et ces deux réseaux de causalité, ces deux chaînes de causalité se sont rencontrées. Elles se sont rencontrées et à la rencontre de ces deux chaînes, il y a cette mouette prise qui, quand elle se débat au bout du fil, n'a plus évidemment du tout un vol qui exprime sa nature de mouette. Ce vol n'exprime plus que... Qu'est-ce qu'il exprime? Alors, il n'exprime plus que, je retire cette expression... Justement, il n'exprime rien exclusivement. Il exprime sa nature de mouette conjuguée à l'effort que fait le pêcheur pour ramener tranquillement le fil au bout de laquelle, au bout duquel la mouette se trouve prise. Et donc, cette mouette, elle a eu un vol dont elle était la cause adéquate, puisqu'il était possible de comprendre à partir de sa nature de mouette pourquoi elle avait ce vol et pas un autre. Elle ne pouvait pas, en tant que mouette, voler comme un perdreau. Et elle a maintenant, prise au bout du fil, un vol qui n'exprime plus sa nature de mouette, ou qui ne l'exprime plus que partiellement, parce qu'il est certain que les mouettes sont certainement comme les oiseaux, sont certainement comme les poissons. Si vous attrapez au bout d'un fil, ils ne se défendront pas tous de la même façon. Eh bien, cette pauvre mouette, elle a un parcours, des mouvements qui expriment encore, d'une certaine façon, sa nature de mouette, mais qui ne l'exprime plus de façon adéquate, qui l'exprime de façon partielle, puisque ces mouvements expriment autant l'action du pêcheur qui tire le fil que celle de la mouette elle-même. Voilà ce que signifie. Alors, je pense que cet exemple à lui seul doit suffire à rendre clair l'opposition de la cause adéquate et de la cause inadéquate. Opposition dont je rappelle qu'elle est fondée sur le critère de l'intelligibilité du rapport de la cause à ses effets. Cette intelligibilité est-elle de nature à rendre pensable le rapport entre la nature de la cause et les effets que produit cette cause? Eh bien, ça ne vaut pas seulement pour les mouettes. Ce qu'illustre ce propos pourrait être illustré par bien des exemples venus de l'univers humain, bien entendu. Prenez un homme qui en frappe un autre. Un humain frappe un autre être humain. C'est toujours un humain qui frappe un être humain. Les résultats peuvent différer. Il peut le blesser, il peut le tuer. Et, je dirais, factuellement, il se peut que d'un meurtre à un autre meurtre, ou plutôt, car tout homicide n'est pas un meurtre, d'un homicide à un autre, ou de coups et blessures à d'autres coups et blessures, il se peut que le résultat soit le même. Il se peut, par exemple, que de la même façon soit tué, ici, un innocent, là, un coupable. Ici, un bon, là, un méchant. Mais on accordera, je pense, sans difficulté, que ne sont pas causes de la même façon celui qui a tué au terme d'une démarche et par l'effet d'un projet délibéré et mûrement réfléchi, et celui qui a tué sous le coup, par exemple, d'une crise de folie ou d'un accès déterminé par l'ivresse sous alcool ou sous un autre produit stupéfiant. Dans le premier cas, il est clair que celui qui a tué, par exemple, celui qui a tué en participant à une conspiration dont le but était, après projet mûrement réfléchi et organisé à plusieurs, d'éliminer le tyran, eh bien, celui-là n'est pas cause, évidemment, de la même manière que celui qui a agi, par exemple, ne serait-ce que sous l'emprise d'une crise violente, passagère, d'émotion, que cette émotion soit l'indignation ou que sais-je encore. On dira que, disons, dans un cas, l'auteur, je l'appelle l'auteur pour l'instant, l'auteur est plus authentiquement cause que dans un autre cas. L'auteur est plus essentiellement cause que dans un autre cas. Et on dira que dans le cas de celui qui, par exemple, a fait ce qu'il a fait sous l'emprise d'une violente émotion, d'une crise de folie, par exemple, eh bien, on dira de celui-là plutôt que de dire qu'il a agi, on pourrait presque dire qu'il a été agi. Il a été agi par les forces qui s'étaient emparées de lui à ce moment. Ce pourquoi son action ne pourra véritablement être comprise à partir de ce qu'il est, de son essence d'humain, et elle devra être comprise par l'intervention de causes extérieures ayant, si vous voulez, paralysé l'action de sa nature et de son essence propre. Et je pense que, enfin, ces autres exemples on pourrait les multiplier, hein, on pourrait les multiplier. Je pense à un épisode dans 93 de Hugo. Vous savez que le grand affrontement de 93, ça n'est pas tant l'affrontement entre républicains et troupes vendéennes. Non, le vrai affrontement, c'est l'affrontement entre deux personnages qui répondent au nom de Simourdin, commissaire du peuple, le politique, si vous voulez, le représentant du gouvernement, délégué, qui se rend en Vendée pour... Pardon ?
Excusez-moi, je crois qu'on disait représentant en mission.
Représentant en mission, oui, vous avez certainement le terme exact, je vous remercie. Donc, Simourdin, l'affrontement décisif, enfin, disons, central des Misérables, est entre Simourdin et Gauvin, qui est, lui, un jeune chef militaire. C'est un chef militaire. Donc, vous avez le politique et le militaire. Et Simourdin, dans un épisode du roman, tense le général pour avoir fait grâce aux paysans insurgés, aux paysans combattants pour du côté des Vendéens, et donc il reproche à Gauvin d'avoir fait grâce aux paysans en disant tu as laissé en vie des ennemis de la République qui n'auront rien de plus pressé que de reprendre les armes à la première occasion. Et il pose à Simourdin la question suivante: si tu attrapes le marquis de Lantenac. Lantenac, alors chef royaliste, et chef royaliste qui s'est rendu clandestinement au terme d'une traversée comportant d'ailleurs un épisode absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut lire 93 de Hugo. Le marquis de Lantenac débarque donc sur les côtes françaises et prend le commandement des troupes vendéennes. Et Simourdin demande à Gauvin, mais dis donc, si tu attrapes Lantenac, tu lui feras grâce? Et Lantenac répond non, non. Il répond, les paysans sont des ignorants, Lantenac sait ce qu'il fait. Lantenac sait ce qu'il fait. Bon. N'allons pas plus loin, parce que je ne suis pas sûr que cette opposition, que je crois quand même parlante au regard de la distinction qui nous intéresse, soit pleinement satisfaisante, parce qu'il y aurait aussi une certaine manière de défendre l'idée que Lantenac ne sait pas vraiment non plus lui-même ce qu'il fait. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Lantenac sait ce qu'il fait. Lantenac est certainement plus authentiquement cause de l'action qu'il a entreprise, du combat qu'il mène et des effets qu'auront ce combat, éventuellement, c'était encore possible, la chute de la République. Il en est plus authentiquement cause que ne le seraient des paysans qu'on appellerait aujourd'hui, qu'on dirait aujourd'hui, qu'on qualifierait aujourd'hui de manipulés, si vous voulez, ou d'instrumentalisés par le camp monarchiste. Alors, dès lors, maintenant, il faut se demander qu'est-ce que ça signifie pour un esprit humain, qu'est-ce que signifie pour un esprit humain être cause adéquate. Qu'est-ce que cela peut signifier qu'être cause adéquate? Si la causalité adéquate, c'est la causalité qui se laisse comprendre à partir de l'essence, de la nature même de la chose qui exerce l'action causale. Alors, au fond, nous voyons bien tout de suite quel doit être le modèle idéal, le prototype, l'exemple typique de ce qui peut être dit cause adéquate. Ben, il y a bien un nom pour ces choses dont nous voyons bien que les effets procèdent d'un mécanisme qui est inscrit tout entier, complètement, dans leur nature. Et ces choses, on les appelle des automates. On les appelle des automates. Un automate, c'est une chose qui a en elle-même, autos, en elle-même le pouvoir de se mouvoir, et qui a en elle-même, qui plus est, non seulement le pouvoir de se mouvoir, mais qui a en elle-même le programme de ses mouvements, qui a inscrit en elle le programme de ses mouvements. Bon, si vous voulez, le modèle, c'est la boîte à musique. à l'époque de Spinoza, l'art des automates, l'artisanat des automates n'a pas encore atteint le degré de perfection qu'il atteindra au siècle suivant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au XVIIIe siècle, la figure de l'automate, mais de l'objet, hein, de ces petites machines qui nous émerveillent, dans, par exemple, dans les cirques, encore que, bien sûr, la mode a passé, maintenant, aujourd'hui, d'exhiber des automates dont l'intérêt est moindre, bien entendu, parce que nous avons des choses beaucoup plus spectaculaires et qui en jettent infiniment plus. Mais au XVIIIe siècle, on s'occupe beaucoup des automates, on réfléchit beaucoup à partir de ce modèle des automates, et on commence à se demander ce que serait capable de faire un automate, et ce qu'il serait incapable de faire en particulier. Et donc, j'allais dire, il faudrait écrire une thèse, mais je suis absolument certain que ça a été fait, même si je ne la connais pas, je suis absolument certain qu'il existe une thèse, et peut-être une douzaine, et peut-être trois douzaines et plus, de thèses universitaires écrites sur le sujet de l'importance de l'automate, de la figure de l'automate, dans la pensée des Lumières, par exemple. Ça commence au XVIIe siècle, hein, à se perfectionner l'art des automates, mais ça atteint un degré de perfection particulier au siècle suivant. Alors, pour nous, évidemment, l'illustration la plus, je dirais, immédiatement évidente de la cause adéquate, c'est l'automate qui produit les mouvements qu'il effectue à partir de lui-même, à partir de sa propre essence, c'est-à-dire de sa nature de machine déterminée à faire ce qu'elle fait par le projet d'un ingénieur. Eh bien, c'est justement ça, c'est justement cette figure de l'automate, c'est cette image de l'automate que Spinoza va reprendre, non seulement, beaucoup plus qu'à titre d'illustration de la causalité adéquate, beaucoup plus qu'à titre d'illustration, mais pour identifier le fonctionnement de l'automate à la causalité adéquate, en tant qu'être cause adéquate est justement, je dirais, l'idéal de ce que doit être un comportement humain, une conduite humaine. Et nous arrivons devant ce paradoxe, parce que c'est tout de même quelque chose d'assez étonnant. Spinoza va nous dire que réaliser au plus haut degré la perfection de l'essence qui est celle de l'être humain, ça va être de penser comme un automate, de penser de manière automatique. Et Spinoza va parler d'automate spirituel. Alors ça, c'est le point suivant où j'ai développé l'idée d'automate spirituel. Alors, l'expression se trouve, à ma connaissance d'ailleurs, elle ne se trouve qu'une seule fois dans l'œuvre de Spinoza, je n'en connais pas d'autre occurrence. L'expression d'automate spirituel se trouve telle qu'elle, chez Spinoza, au paragraphe 85 du traité de la réforme de l'entendement. Donc, traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 85. Alors Spinoza vient de noter dans ce paragraphe que l'idée qu'il développe, à savoir que la connaissance vraie d'une chose passe par la connaissance de la cause de cette chose, ça c'est la thèse qu'il vient de soutenir, il vient de rappeler que cette thèse avait son origine chez Aristote, mais il ajoute que, contrairement à ce qu'il va faire lui, les anciens ne concevaient pas l'âme comme placée sous le régime de la nécessité, que les anciens, au fond, émancipaient l'âme du régime de la nécessité causale et ne la considéraient pas, cette âme, ou cet esprit. Vous voyez, je viens de dire âme pour esprit, mais peu importe. Que les anciens ne concevaient pas l'âme ou l'esprit comme placé sous le régime de la nécessité, c'est-à-dire comme il le fait lui, comme, je cite, « agissant selon des lois certaines et comme quelque automate spirituel. » Agissant selon des lois certaines et comme quelque automate spirituel. Donc voilà ce qu'il prétend lui introduire de nouveau. une conception de l'esprit comme agissant selon des lois certaines et comme quelque automate spirituel. Traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 85. Alors, si on y réfléchit bien, je parlais de paradoxe, mais c'est plus qu'un paradoxe. Si c'est un paradoxe, c'est un paradoxe, c'est quand même quelque chose d'inquiétant, éventuellement même de totalement effrayant. Spinoza nous demande d'accepter l'idée que non seulement la pensée humaine est soumise à la nécessité causale universelle, ça, nous le savions déjà, nous avons appliqué ce principe d'ailleurs au fonctionnement de l'imagination, et ce principe vaut pour la pensée humaine dans la mesure où cette pensée humaine, elle est une partie de la nécessité universelle du Dieu nature. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle que la pensée humaine est soumise au régime des lois causales. Mais ce que nous dit Spinoza, c'est que non seulement elle est toujours nécessairement dans quelque ordre d'objet ou de sujet de pensée que ce soit, mais que c'est ce qu'elle doit être. C'est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire qu'il ne faut rien proposer d'autre comme idéal au fonctionnement de la pensée humaine et de la pensée en général que ce mode de fonctionnement mécanique qui est celui de l'automate. C'est ça que nous dit Spinoza, et il faut avouer que cela est non seulement paradoxal, mais même ouvre des perspectives qui ressemblent quand même à des abîmes. Souvenons-nous, j'avais produit cette citation, de ce que disait Spinoza au chapitre 13 du traité théologico-politique à propos du discours des superstitieux, à propos du discours de ceux qui véhiculent et qui répètent les dogmes des religions révélées sans les comprendre. Dans ce chapitre 13 du traité théologico-politique, Spinoza écrivait à propos de ce que disent les superstitieux, de ce que répètent les prêcheurs ou les prêtres qui ressassent et qui radotent les dogmes des religions révélées, il disait ceci: « Cela ne touche pas plus leur pensée et ne leur montre rien de plus que les mots d'un perroquet ou d'un automate qui sont des paroles dépourvues de pensée et de signification. » Cela ne touche pas plus leur pensée, les paroles qu'ils prononcent ne touchent pas plus leur pensée et ne leur montrent rien de plus que les mots d'un perroquet ou d'un automate qui sont des paroles dépourvues de pensée et de signification. Seulement ici, il n'est pas du tout question d'automatisme dans le même sens et avec le même contenu auquel nous avons affaire ici, pas du tout. Parce que l'automatisme ici d'abord ne concerne que les paroles. Il nous dit, Spinoza, que cela, les mots d'un perroquet ou d'un automate qui sont des paroles dépourvues de pensée et de signification. Il nous dit donc que, eh ben, chez certains, dès que nous les entendons parler, nous savons que ce n'est pas de la pensée qui s'exprime, mais une espèce de mécanisme plus ou moins bien rodé, dont on sait à l'avance sur quel résultat il va déboucher. La métaphore ici, ou l'image appropriée, plus que celle de l'automate, ce serait celle du magnétophone. Voilà. Hein, une expression, il y a des gens qui parlent comme un magnétophone. Voilà, ils ont enregistré, alors ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'église, ça peut être je ne sais où, ils ont enregistré un discours qu'ils répètent. Mais ce n'est pas du tout de cet automatisme-là qu'il s'agit, parce que c'est bien de la pensée que nous parle ici Spinoza, et pas de paroles répétées sur le mode des perroquets. Là, l'automatisme, le mécanisme de l'automate, je répète, c'est ce que la pensée, selon lui, est réellement et ce qu'elle doit être. Elle doit être de la nature d'un mécanisme. L'essence de la pensée qui pense de façon adéquate, c'est-à-dire en vertu de sa propre essence, c'est de penser sur le mode de l'automatisme. C'est sur penser sur le mode de ce qu'il faut bien appeler un mécanisme. Alors ce n'est pas un mécanisme matériel, ce n'est pas une machine faite de ressorts, de roues dentées, de leviers, de bielles et autres choses de ce genre, C'est un mécanisme fait d'idées, dans lequel les idées s'enchaînent selon un ordre causal qui n'est ni plus ni moins rigoureux que l'ordre causal qui préside au fonctionnement d'une machine matérielle. Qu'est-ce que cela veut dire, cette idée de l'automate spirituel ? Ça veut dire que l'esprit est automate. L'esprit est automate dans la mesure où ce qui s'accomplit en lui, à savoir la façon dont s'organise, dont s'enchaîne, dont se combine, dont s'opposent les idées, l'esprit est automate dans la mesure où ce qui s'accomplit en lui procède de sa nature propre d'esprit, découle ou suit, comme dit Spinoza, qui aime bien utiliser le verbe suivre, sequor en latin, au sens de procéder sur le mode causal, sur le mode selon lequel un effet procède d'une cause. Eh bien, l'esprit est automate dans la mesure où ce qui s'accomplit en lui, c'est-à-dire la façon dont s'organise, dont s'agence, dont s'en combine les idées, procède de sa nature propre d'esprit, quand il se meut selon sa loi propre d'esprit, c'est-à-dire quand il comprend, selon l'ordre intelligible, selon l'ordre de l'entendement, selon l'ordre intelligible de l'enchaînement objectif des idées. L'automate spirituel, c'est cet être pensant idéal qui serait idéal en ce sens que ce qu'il pense n'exprimerait plus que l'essence même de la pensée, que la nature même de la pensée. Et qu'est-ce que c'est que la nature de la pensée ? L'essence de la pensée, qui ne fait au niveau individuel des pensées des humains comme au niveau de la pensée de Dieu, l'essence de la pensée, c'est de comprendre, c'est d'ordonner les idées selon un agencement intelligible dont on puisse rendre compte par l'intellect. C'est ça l'automate spirituel. Autrement dit, l'automate spirituel est automate. Alors, il est spirituel en tant qu'il a des idées, et il est automate en tant que ses idées sont des idées adéquates, c'est-à-dire des idées qui accomplissent, on pourrait dire la vocation, mais il faut dire en vérité l'essence de l'esprit, qui est de comprendre la puissance. Spinoza dit pas, quelque part, je crois que c'est dans la quatrième partie, il dit que la vertu la plus éminente de l'esprit est de comprendre. L'esprit veut comprendre, l'esprit tend à comprendre, l'esprit cherche à comprendre, et au fond, même quand on a affaire à quelqu'un dont on a vraiment l'impression qu'il n'a pas envie de comprendre, ou qu'il ne cherche pas à comprendre, quelqu'un qu'on aurait envie de rappeler à un peu de bonne foi, eh bien on s'apercevra que c'est Malebranche qui fait cette observation, que ceux-là même qui sont, lorsqu'ils vous parlent, les plus étrangers aux soucis de la raison, eh bien, veulent encore montrer par raison pourquoi il leur est légitime de tenir les discours qu'ils tiennent, et ils raisonnent pour montrer qu'ils ont raison de déraisonner, si vous voulez. Il n'y a pas un délirant, il n'y a pas un fanatique, il n'y a pas un homme ou une femme de mauvaise foi qui ne prenne la peine d'argumenter et de raisonner de façon à se rendre capable au moins de simuler un ordre rationnel de justification de ce qu'il dit. Malebranche utilise cette expression, tout le monde se pique de raison et tout le monde y renonce. Voilà. C'est vrai que c'est un fait que les hommes, les humains sont bien peu capables de raison. Ils sont très doués pour délirer sur toutes sortes de choses, ils sont très doués pour s'en compter, pour se faire illusion à eux-mêmes, pour entrer dans des stratégies de déni. Mais ils veulent toujours montrer, ils ont quand même toujours à cœur de montrer que leur façon d'agir reste fidèle à cet idéal de raison, ce qui est une manière, si vous voulez, de rendre hommage à l'éminence de la raison dans l'ordre de l'esprit. C'est peut-être ça que Pascal veut dire dans une pensée assez célèbre. Il écrit, Comment se fait-il qu'un boiteux ne nous irrite pas et qu'un esprit boiteux nous irrite? Quelqu'un qui boite dans la rue, ça ne vous irrite pas. Bon, ça... mais un esprit boiteux nous irrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un esprit boiteux, nous sentons bien qu'il s'est rendu d'une certaine façon coupable de trahison à l'endroit de ce que, de ce à quoi l'esprit, son esprit en tant qu'il est esprit, l'oblige, à sa dignité d'esprit, si vous voulez. Et c'est, ce qui fait, c'est aussi ça qui fait dire à Pascal, je pense, que par exemple, la voie qui consiste à régler sa croyance sur, sur l'agrément, Pascal dit l'agrément, c'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est que la voie qui consiste à régler ce qu'on croit sur ce qu'on a envie de croire, sur ce que ça nous fait plaisir de croire, cette voie, dit Pascal, est indigne et étrangère. Elle est indigne en quel sens? Elle est indigne en ce sens qu'elle est en dessous des exigences, en dessous des obligations que nous fait le simple fait d'être des esprits. Eh bien, ça, ça veut dire que vous avez chez Pascal, aussi bien que chez Malebranche, et Dieu sait pourtant s'ils sont éloignés de Spinoza par une multitude d'aspects, encore que pour Malebranche, on l'est fortement suspecté d'être plus spinoziste qu'il ne le disait, qu'il ne le voulait ou qu'il ne le croyait. Mais enfin, il reste que le dieu de Malebranche n'est certainement pas celui de Spinoza, même si on peut quelquefois trouver des points par lesquels, fâcheusement, il y aurait des ressemblances. Eh bien, c'est ça qu'ils disent, Malebranche, Pascal, si éloigné soit-il de Spinoza, qu'au fond, bah oui, l'essence de l'esprit, c'est de comprendre. Voilà, alors, bon, je n'en ai pas tout à fait fini avec cette idée d'automate spirituel, mais j'y reviendrai la prochaine fois parce que c'est très important, ça. Voilà, la pensée, c'est ça. La pensée, c'est ça. Et la pensée, en tant qu'elle est à la hauteur de ce qu'elle doit être. Voilà. Alors que nous avons l'habitude de voir dans l'automatisme, dans le mécanisme, ce qui est la négation, le contraire même de la pensée. Voilà, bon, je vous remercie. Fourbissez vos questions.